don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家，正忙着
Chérie qui bat que rien.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, comme chaque vendredi. On vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du Monde. Bonjour Marc Semo. Merci d'être avec nous, journaliste au Monde. Marc, on va s'intéresser aujourd'hui à l'Afghanistan. Samedi dernier, le mollah Akhtar Mansour a été tué lors de frappes de drones américains sur une route de la région du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan voisin. Quelques heures plus tard, le président américain confirmait sa mort, précisant dans un communiqué qu'elle constituait, je cite, « un jalon dans notre effort au long cours pour ramener paix et prospérité en Afghanistan ». Le successeur du leader historique, le Mollah Omar, sera donc resté moins d'un an à la tête des talibans, une période durant laquelle les combats sont considérablement intensifiés. Alors, est-ce qu'il faut y voir le signe que la stratégie de lutte contre les talibans de Washington et de Kaboul est payante? Est-elle de nature à endiguer leur expansion? Rappelons-nous quand même que l'année dernière, ils étaient parvenus à s'emparer de la ville de Kunduz, une victoire évidemment symbolique, la plus importante depuis l'intervention étrangère de 2001. Les talibans n'ont pas beaucoup tardé à annoncer le nom de celui qui prendra désormais le commandement, Aibatullah Akhundzada. Alors, que peut-on attendre de sa nomination? Qui est ce nouveau chef des talibans afghans? Est-il disposé à discuter, à parler de paix? Et sous quelles conditions? Voilà les grandes questions qu'on va se poser ce matin avec deux invités qui sont d'ores et déjà avec nous en plateau. D'abord, Mariam Abouzaha, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes enseignante à l'INALCO. Et Karim Pakzad, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, chercheur à l'IRIS. Nous, avant de se retrouver autour de ces grandes questions, d'abord, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'Association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit tout de suite revient du Rwanda.
C'est le silence de ta mère qui t'a fait te poser des questions?
Oui, je vivais comme dans un mystère. Et par la suite, comme ma mère a vu que je ne lâcherais rien et que je la harcèlerais avec mes questions et qu'elle se faisait conseiller à droite et à gauche, elle a fini par me dire comment je suis né. Que je suis né suite à un viol. Mais ce n'est pas de sa faute.
Mais à part l'agressivité et le chagrin, est-ce que tu as d'autres ressentis en rapport avec ta situation?
Non. Pour moi, je n'avais rien à faire ici, sur cette terre.
Bonjour Marine Courtade.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, on vous reçoit pour ce documentaire. Donc on vient d'entendre un extrait, Mauvais souvenir, sur les enfants issus de viols au Rwanda, qui est diffusé sur Spicy, qui est un média vidéo, j'indique pour les auditeurs, de grands reportages et d'investigations qu'on retrouve uniquement sur Internet. Et j'indique également que vous êtes sélectionné pour le prix Albert Londres qui sera remis dans quelques jours. Votre documentaire donc est consacré à ces enfants. Né de viol durant le génocide rwandais. À l'époque, le viol avait été utilisé, on le sait bien sûr, comme une véritable arme de guerre. Alors, il est difficile de compter précisément combien d'enfants sont concernés, mais clairement, c'est des milliers. Aujourd'hui, ils ont donc une vingtaine d'années et on les appelle les enfants mauvais souvenirs. Pourquoi avoir choisi, Marine Courtade, de consacrer ce film à ces enfants?
Parce que moi, je voulais travailler sur le Rwanda depuis longtemps. Et à force de lire, de me renseigner, etc., je me suis rendu compte qu'on donnait beaucoup la parole aux mères, aux femmes violées, aux veuves, aux prisonniers. Et que ces enfants-là, qui ont aujourd'hui 20 ans, on les avait jamais entendus. Du coup, moi, en tant que personne, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils pensent? Quel est leur point de vue sur ce qui s'est passé? Quelle est leur relation avec leur mère et avec leur père? Et c'est comme ça que... je me suis retrouvée à partir là-bas.
On va essayer de comprendre tout ça ensemble. Comment est-ce que vous êtes parvenue à obtenir justement leur confiance? C'est Arthur, Divine, Hilary, est-ce qu'ils vous ont parlé facilement, librement?
Alors c'était le gros challenge de ce tournage parce que d'habitude un tournage ça se prépare en amont, on appelle les gens, on les a au téléphone, etc. Là d'une part bon, il y avait la barrière de la langue, mais surtout il y a un vrai culte du secret qui entoure leur naissance. Donc là, caler les gens qu'on allait rencontrer avant de partir, c'était compliqué. Du coup on est parti sur place. Et une fois sur place, on a fait le choix de ne pas filmer, de passer une journée entière avec eux en posant la caméra et sans filmer et juste discuter, tenter de leur expliquer le projet, répondre à toutes leurs questions. Et c'est comme ça qu'ils ont accepté de nous faire confiance et de nous parler.
Évidemment, les relations en particulier avec leur mère sont extrêmement difficiles. À un moment, on voit par exemple dans votre film une scène dans laquelle cette fameuse Hilary, qui est une jeune fille donc d'une vingtaine d'années, qui discute avec sa maman, qui lui demande finalement ce qu'il faudrait pour que leur relation soit apaisée, disons, et sa mère de lui répondre que de toute façon il n'y a pas de solution, quel est le problème et qu'elle soit, que son existence même finalement, qu'elle soit là ou pas, est un problème. Ces enfants-là, on le voit très clairement, font l'objet d'un rejet extrêmement profond de la part des mères, mais aussi de toutes les familles, de toute la communauté en réalité.
Oui, exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Rwanda, on est dans une société très patriarcale. Le père a vraiment son importance. C'est très souvent qu'on demande à un enfant « qui est ton père ?» qui permet de comprendre la lignée, etc., et d'où vient l'enfant. Ces enfants-là, ils ne peuvent pas du tout répondre à cette question « qui est ton père ?» Et en fait, c'est en ayant cette question-là de la part de d'autres personnes que eux-mêmes ont commencé à se demander « mais c'est vrai, ça, il est où mon père ? Comment ça se fait que je ne l'ai jamais vu ? Comment ça se fait que ma mère ne m'en parle pas ? Comment ça se fait que quand je pose la question à ma mère, elle rentre dans des colères noires, elle devient très agressive ou elle rentre dans un silence énorme ? Et c'est comme ça, en fait, que eux, ils ont levé le secret en allant questionner, voire harceler leur propre mère pour comprendre où était ce fameux père. Et c'est comme ça qu'ils ont percé le secret et qu'ils ont compris comment ils étaient nés.
Est-ce que ça change quelque chose, justement, dans leur relation à la communauté, à leur mère en particulier ? Est-ce que le fait d'apprendre qu'ils sont nés d'un viol change quelque chose ?
Alors, avec leur mère, souvent, les relations sont conflictuelles. Les mères sont dans un rapport très bizarre avec leurs enfants, mais ce qu'on peut comprendre, c'est des enfants qui les ramènent toujours au souvenir du génocide. Par exemple,
on les appelle mauvais souvenirs, c'est le titre de votre documentaire.
Oui, mais ça, typiquement, il y a un donné, Verena, la mère de Divine, qui dit quelque chose de très fort. Elle dit, on les appelle enfants mauvais souvenirs, mais moi, je considère que ce qui s'est passé est un mauvais souvenir, mais que mes enfants ne sont pas des mauvais souvenirs. Mais pour en arriver à dire cette phrase-là, il a fallu 20 ans et elle a dû passer par des discussions. Elle a été aidée par une association pour apprendre à aimer son enfant.
La question du père, certains cherchent à savoir évidemment qui est leur père, tout le monde évidemment, mais tous ne peuvent pas. Il y a par exemple un père qui lui est en prison et donc la fille ne peut même pas le rencontrer, le voir. Beaucoup en fait vous disent qu'ils voudraient les rencontrer, c'est le cas par exemple de Roger qui vous dit même qu'il lui pardonnerait. Il y a un désir qui est assez frappant, assez étonnant de leur part d'une certaine manière, un désir de pardon et de réconciliation qui est très fort.
Oui, alors moi, c'est ce qui m'a le plus surpris sur ce tournage. Moi, j'étais persuadée, en y allant, que j'allais rencontrer des enfants qui étaient dans un état un peu vengeresque, assez haineux envers leur père, etc. Et en fait, en rencontrant ces enfants-là, je me suis rendu compte que pas du tout, et que je faisais face à des enfants qui sont dans un désir très profond d'avoir un père, de le rencontrer quelles que soient les choses qu'il a fait, et de pouvoir dire papa, tout simplement. Et donc, du coup, ils sont dans une démarche où ils cherchent à tout prix à retrouver leur père, ce qui est très compliqué, parce que souvent, malheureusement, les mères ont été violées par plusieurs hommes. Elles sont pas forcément au courant de qui est le violeur qui l'a mis enceinte. Et donc, du coup, les enfants sont face à un vide abyssal quant à cette situation.
Il y a une chose qui est très frappante, c'est que ces enfants-là, évidemment, sont rejetés par leur mère, par les communautés, et en même temps, ils sont pas complètement abandonnés. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde la mère d'Hilary, évidemment, elle la nourrit, elle la loge, elle l'envoie à l'école. D'ailleurs, à un moment, elle lui dit quelque chose d'extrêmement frappant. Elle lui dit, il faut bien travailler à l'école parce que c'est le seul héritage que tu vas avoir. Donc, on voit bien que d'une certaine manière, il y a quand même une forme de responsabilité collective vis-à-vis de ses enfants.
Alors, je sais pas si on peut parler de responsabilité collective. C'est quand même les victimes vraiment oubliées du génocide. C'est des victimes indirectes. Mais le gouvernement ne les prend pas du tout en main. Il n'y a aucune aide. Il y a, par exemple, le FARG, le Fonds d'assistance aux victimes, aux rescapés du génocide qui a été mis en place. Ces enfants-là ne peuvent pas y prétendre. Mais en tout cas, il y a des associations qui ont été créées, très peu, qui tentent de les aider avec très peu de moyens. Et donc, du coup, c'est via ces associations que, par exemple, ils peuvent avoir des cahiers, des frais pour l'école, etc.
D'accord. Et comment ils les aident très concrètement ? Parce qu'évidemment, il y a cette quête de la reconnaissance. On voudrait bien que l'État reconnaisse l'existence de ces enfants. D'abord, quelle est justement la position de l'État vis-à-vis de ces enfants ? Est-ce qu'il dit des choses ou parce que c'est le silence absolu. Et comment justement les associations essayent de lutter pour cette reconnaissance? Par quelle voie ça passe? Est-ce que ça passe par la voie judiciaire? Est-ce que ça passe par...
Alors c'est le grand silence de la part de l'État, et en même temps ils ont beaucoup de chemin à faire par ailleurs avec ce qui s'est passé en 94. Donc aujourd'hui la priorité, enfin en tout cas on parle beaucoup plus par exemple des veuves du génocide, des orphelins, les enfants nés des viols, c'est pas du tout la priorité encore, on n'en parle pas encore. Du coup, c'est comme ça que des associations se sont créées, parce qu'il y avait un vrai vide autour de ces enfants qui, encore une fois, vivent dans le secret, sont quand même énormément rejetés par les communautés, et les enfants et les mères. Et c'est ces associations qui tentent de les aider. Donc ça passe par un travail avec les mères où on apprend aux mères à aimer leurs enfants, ou en tout cas si elles n'arrivent pas à les aimer, à leur donner une certaine valeur et à les comprendre et pas les rejeter pour ce qu'ils sont, parce qu'ils n'y peuvent rien malheureusement de ce qui s'est passé. Et le travail passe aussi par des petites aides financières, notamment pour aller à l'école.
L'objectif aussi c'est peut-être de mettre sur le devant de la scène d'une certaine manière ces enfants-là. Vous êtes allé à la rencontre d'un groupe de musique et de danse qui est baptisé Bon Espoir, donc des jeunes filles, des jeunes garçons qui se sont rassemblés autour de ce point commun qu'être né d'un viol. On voit d'ailleurs à un moment le groupe de musique partir à Kigali alors que l'association Sevota réunit justement des femmes violées pendant le génocide qui sont accompagnées de leurs enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot peut-être sur cette association et sur... la manière aussi dont les gens perçoivent tout ça, parce que ce qu'on voit dans votre documentaire, c'est qu'ils arrivent pour présenter une danse et finalement, il n'y a personne en face, quasi personne n'est venu voir.
Oui, alors cette journée, c'était une journée très particulière parce que rien que pour moi, je pensais que ce serait l'ouverture du film, en fait, de montrer ce concert, etc. On arrive sur place, donc il y a un grand rassemblement des femmes violées, de leurs enfants, etc. Et là, chose improbable, l'association a invité deux Muzungu, comme ils disent, deux blancs qui se prenaient pour des grands humanitaires, grands psychologues, etc. Et qui tentent, en une après-midi, de rééduquer, comme ils disaient, ces femmes violées, en leur demandant de faire des exercices absolument improbable, du type touchez-vous la main en frottant votre doigt contre votre autre doigt, vous allez enlever le mal, etc. Donc c'était complètement improbable. Et en fait, ces personnes-là ont pris tellement de temps que ça a reculé le concert des enfants, à tel point que les enfants, quand ils ont commencé à danser et chanter,
il n'y avait plus personne.
Donc eux étaient hyper déçus. Et en plus, le lendemain, les femmes qu'on a revues, on leur disait « Mais vous en avez pensé quoi de ces exercices des deux blancs qui sont venus de Suède exprès pour vous ?» Et elles disaient « Mais c'était n'importe quoi !» Mais elles ont été hyper sympas parce qu'elles ont fait les exercices patiemment, etc. Tout en se disant « Bon, bah, ils nous aident pas. » Donc voilà, c'était une journée assez improbable.
Ceux qui pourraient aider, d'une certaine manière, c'est les journalistes rwandais. Est-ce qu'ils se préoccupent de ces enfants?
Mais alors, ça, c'est une vraie question, mais les journalistes rwandais ne parlent quasiment pas de ces enfants-là. Pourquoi? J'en ai pas la réponse, mais c'est clair qu'il y a un vrai tabou qui entoure ces enfants. En tout cas, il y a un vrai secret et
on peut le comprendre de la part de l'État, parce qu'évidemment, ce souci de la réconciliation, mais c'est plus difficile à comprendre du point de vue du journaliste.
Faudrait que vous invitiez un journaliste rwandais pour lui poser la question, mais vraiment, pour le coup, moi, je me pose aussi la question sur cette question-là, oui.
Réaction ici en plateau, et je me tourne peut-être en particulier du côté de Mariam Abouzaab, qui connaît bien le Rwanda, Mariam Abouzaab.
Non, je ne suis jamais allée au Rwanda, j'ai simplement le privilège de traduire l'énorme rapport de Human Rights Watch sur le Rwanda qui avait été rédigé par Alison Desforges, qui malheureusement est décédée accidentellement depuis. Oui.
Et votre réaction, que vous inspire les propos de Marine Courtade?
Ah ben moi, ça évoque évidemment énormément de choses, parce qu'à l'époque, ça a duré pendant 2 ans, cette rédaction et traduction du rapport. Et donc, j'ai découvert un monde que j'ignorais totalement. Et depuis, je m'intéresse à tout ce qui se passe au Rwanda, forcément, parce que ça ne me laisse pas indifférente. Et c'est un sujet qui n'était pas du tout évoqué à l'époque, les viols. Donc là, je découvre quelque chose que j'ignorais, quoi. Je ne savais pas du tout comment on avait géré cette question, comment on s'était occupé des enfants issus de ces viols. Donc, c'est ce que vous avez avez fait vraiment très bien, parce que c'est un aspect qui avait été totalement négligé. Ouais.
Merci beaucoup, Marine Courtade, d'être passée dans nos studios. Je rappelle votre documentaire « Mauvais souvenir » qu'on peut découvrir donc sur le site Spicy, qui est donc ce média.
S-P-I-C-E-E.
Voilà, on mettra peut-être un lien sur la page de Culture Monde pour que les auditeurs puissent y aller plus facilement. Merci beaucoup.
Merci.
Nana wanje uru mwana nkabandi kandi humuruza kura neza uzagira ubuzima bwiza nyiriho kandi humura ntacyo uzaba.
On va tourner notre page rwandaise pour se tourner du côté de l'Afghanistan. Après la mort de l'ancien chef des talibans afghans et la nomination de son successeur, faut-il encore croire à la paix?
France Culture. Culture Monde par Florian Delorme.
Samedi dernier, sur une route du sud du Pakistan, je le disais, les frappes des drones américains ont touché leur cible. Akhtar Mansour, le chef des talibans afghans, est mort.
It has been confirmed that he is dead. And
il a été confirmé la mort du Mollah Mansour. Il s'agit d'un individu qui, à la tête des talibans, menaçait spécifiquement le personnel et les troupes des États-Unis envoyées en mission dans le sud de l'Afghanistan pour y maintenir une plateforme antiterroriste et pour apporter de l'aide et une formation aux forces militaires afghanes sur place. Nous ne reprendrons pas part aux opérations militaires quotidiennes des forces de sécurité afghanes. Notre but est d'aider l'Afghanistan à sécuriser son propre pays, mais pas que nos hommes et femmes en uniforme mènent ce combat pour eux.
Voilà donc la réaction de Barack Obama. Ça, c'est pour les États-Unis. Et de leur côté, les talibans ont déjà nommé un successeur, Aibatullah Akhundzada. Qu'est-ce que cette nomination va changer? Est-ce qu'il sera disposé à aller à la table des négociations? Est-ce que ça pourrait peut-être nous permettre de découvrir de nouveaux horizons pour la réconciliation? Et puis, quid du Pakistan aussi, qui traîne des pieds pour relancer les opérations, des opérations franches contre les talibans. Dans les heures qui suivirent l'opération, d'ailleurs, le Pakistan parlait à propos de cette opération américaine de violation de sa souveraineté. Faut-il croire à la paix? C'est la question qu'on se pose ce matin avec Mariam Abouzahab, Karim Pakzad et Marc Semo du Monde. Marc, on va commencer avec vous. Obama, c'est vrai qu'il a présenté cet assassinat, cette élimination comme une victoire de la stratégie américaine, d'une certaine manière. Et en même temps, on s'interroge sur son efficacité, tant la nomination du successeur a été rapide, et tant surtout, bien sûr, l'essor des talibans apparaît totalement inexorable. Depuis le départ de l'essentiel des troupes, des forces occidentales, on voit bien que les forces afghanes, finalement, ne sont pas en capacité de les contenir. On l'a vu à Kunduz, je le disais tout à l'heure, en septembre dernier, où elles avaient été totalement dépassées. En revanche, ce qu'on voit très clairement, Marc Semo, c'est que cet assassinat, c'est un signe des Américains qui se positionnent très clairement auprès des autorités afghanes et donc du président Ashraf Ghani, et aussi, et peut-être surtout, un signe vers le Pakistan, qui en sous-main, bien sûr, on le sait, soutient les talibans et qui refuse d'envisager les négociations.
Effectivement, c'est un signal très fort. Hein. Les Américains, jusqu'ici, c'est la première fois qu'ils tuent un chef taliban afghan en territoire pakistanais, et de surcroît même pas dans les zones tribales limitrophes de l'Afghanistan, mais au Baloutchistan, qui est au sud, et qui est l'endroit où, depuis 2001, l'essentiel de l'état-major des talibans afghans a trouvé refuge. Donc c'est un signal très fort d'abord vis-à-vis des talibans eux-mêmes. Hein, Kerry, Obama l'ont dit, voilà, Mansour était devenu un obstacle pour une négociation de paix. Donc voilà pourquoi il a été tué. Et c'est surtout un signal aux Pakistanais. Hein, aux Pakistanais qui donc sont un des quatre pays qui mènent ces négociations de paix, c'est-à-dire c'est l'Afghanistan, le Pakistan, la Chine et les États-Unis. Le Pakistan est censé pouvoir avoir une réelle influence sur les talibans. Hein, Mansour, le Mollah Mansour était très proche des Pakistanais. Les services secrets pakistanais ont depuis le début manipulé le mouvement des talibans. Le gouvernement afghan, d'ailleurs, dit noir sur blanc que ce qui se passe avec les talibans, c'est une guerre menée avec le soutien d'un pays voisin. Donc on est dans ce cas de figure. Là, les Américains ont l'air d'épouser la thèse du pouvoir afghan et de Ghani, président Ghani. Mais est-ce que c'est le bon choix? Le mouvement des talibans risque d'éclater encore un peu plus, hein, même s'ils ont réussi rapidement à trouver un successeur, ce qui ne va pas simplifier les choses. Et surtout, même si ces offensives sont limitées, Kunduz, ça a été par surprise et une occupation très brève. Jusqu'ici, ils n'ont pas réussi à prendre des villes, mais les talibans aujourd'hui contrôlent plus d'un tiers du territoire, la plus vaste portion de territoire depuis 2001. Ils mènent 800 à 1000 attaques par mois, donc on n'est pas du tout dans un truc de déclin. Et on a l'impression que les Américains, qui veulent continuer le retrait des troupes, qui était une promesse d'Obama, font ces frappes aussi pour suppléer à ça, parce que pour eux, la priorité reste le retrait. Mais les talibans, eux, sont convaincus qu'ils pourront gagner.
Même si on s'interroge du côté américain, on n'est pas sûr encore. C'est l'été prochain qu'on va prendre la décision, savoir si on diminue le nombre de soldats. Je crois qu'ils sont à peu près 9800 aujourd'hui. Il est question de ramener 000, à 5000 et quelques, mais on se pose des questions quand même. Ça sera évidemment un point qu'il faudra aborder. Mariam Abou Zahab, j'ai sous les yeux le portrait du nouveau chef des talibans. Ce qu'on sait sur lui, Aïbatullah Akhundzada, c'est que c'est un fils de théologien, originaire de Kandahar, donc le cœur du pays Pachtoun, au sud du pays. Ça n'a jamais été vraiment un leader très affirmé, il a plutôt une réputation d'être un homme discret. Qu'est-ce qu'on sait sur cet homme? Qu'est-ce qu'on connaît de son parcours? Et surtout, que vous semble révéler sa nomination?
Alors, c'est quelqu'un qui fait partie encore des talibans historiques, qui était né dans les années 60, c'est qui a une légitimité religieuse que n'avait pas ni Mollah Omar, ni Mollah Akhtar Mansour. Il a fait des études religieuses, il est tout à fait reconnu et légitime de ce point de vue-là. Il a enseigné donc dans des madrassas, il a enseigné les sciences coraniques, le hadith, c'est-à-dire l'ensemble des faits et gestes du prophète, et il est reconnu pour son... Il fait autorité dans ce domaine. Il est de tribu Nourzaï, donc une tribu d'Ourani, Kandahari, donc de ce côté-là aussi, il est tout à fait légitime. Donc c'est un personnage qui est un juriste et qui est tout à fait en opposition à ce qu'était la personnalité de Mollah Mansour. Mmh. Mollah Mansour était un militaire et c'était quelqu'un qui aussi faisait des affaires à côté, qui était connu aussi, il était du tribu Issaxay, qui est une tribu qui est très impliquée dans le commerce du pavot et de l'opium, et donc certainement qu'il se finançait comme cela. Il avait aussi d'autres business un peu partout, et il avait un mode de vie qui n'était pas austère, à la différence de Mollah Omar et de Mollah Haybatullah, qui est connu pour vivre de façon très austère et très simple. Donc c'est pas du tout le même type de personnage, pas du tout le même profil, et Mollah Haybatullah n'est pas du tout un militaire. Mais on sait que ça ne changera pas grand-chose pour ce qui est des négociations, de toute façon, parce que c'est quelqu'un qui est vu comme un faucon de ce point de vue-là, et qui est donc opposé aux négociations. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que Mollah Mansour avait fait quand il a été nommé, c'est-à-dire essayer d'arriver à un consensus à l'afghane, de réunir donc tous les groupes, parce qu'on parle toujours de fragmentation des talibans. Certes, ils sont fragmentés. Certes, il y a des problèmes tribaux, parce qu'on accusait Mollah Mansour de donner tous les postes importants des Issaxay autour de lui. Là, on a eu la faction autour de Mollah Rassoul, où c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, où là, on a un problème de génération.
C'est un très proche de Mollah Omar, Rassoul.
Voilà. Et là, on a un problème de génération et un problème aussi de milieu social. Mmh. Où on a des gens plus jeunes qui, eux, n'ont pas du tout envie d'arrêter les combats tant qu'il y aura un seul uniforme étranger sur le territoire. Et qui aussi disent, mais c'est pas possible. Ce sont toujours les chefs qui décident entre eux. Et nous qui sommes la chair à canon, quoi. C'est comme ça. On n'est jamais consulter pour tout cela. Mmh, mmh. Donc là, il faut arriver à remettre tous ces gens-là en place. Et comment faire? Faire comme Mollah Mansour, faire plus de violence, essayer d'unifier les gens, non pas sur des négociations, personne n'est prêt à ça, mais en luttant contre le gouvernement de Kaboul. Mmh. C'est ça qui va dominer, et donc on risque d'avoir un été encore très chaud et très violent.
Alors on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'effectivement vous pensez que les négociations ne sont pas envisageables, mais je voudrais vous entendre, Karim Pakzad, sur la nomination donc de ce nouveau chef des talibans, Akhundzada, savoir ce qu'elle révèle. Depuis 2013-2014, on a assisté à l'arrivée de nombreux combattants étrangers, essentiellement dans le nord, des Ouzbeks, des Tadjiks, des Kazakhs, des Ouïghours, des Turkmènes, même des Tchétchènes, ces étrangers d'une certaine manière, pas d'une certaine manière, ces étrangers, sont associés aux talibans, sauf qu'ils sont arrivés avec leurs méthodes, avec leurs orientations, peut-être avec leurs projets aussi. Est-ce que le choix de Akhundzada, c'est aussi de montrer qu'en Afghanistan, ceux qui commandent, ça reste les Afghans de souche?
Oui, je pense que c'est un peu plus compliqué. Et ces combattants que vous venez de citer, ils se trouvaient toujours en Afghanistan.
Oui, mais ils sont arrivés en groupe, en masse, depuis 2013-2014.
Ils se trouvaient depuis les débuts, si vous voulez, djihad antisémitique, même pas après.
Oui, mais on dit que là, 5000 sont arrivés les 2-3 dernières années.
Non, mais ce qui s'est produit, c'est que le mouvement islamique d'Ouzbékistan, c'est un mouvement islamiste, djihadiste, opposé au régime de Karimov, et qui se trouvait aux côtés des talibans dans le passé. Et qu'après la chute des talibans, ils se sont réfugiés dans les zones tribales, ils se sont radicalisés énormément, mais ils se trouvaient toujours en Afghanistan. Mmh. Au point où, aujourd'hui, il est même difficile de distinguer entre eux et leurs descendants avec les Afghans, parce qu'ils sont restés là, se sont mariés avec les Pashtuns même, etc. Non, c'est plus compliqué. Mais ce qui se produit, c'est que...
Oui, mais c'est pas des grandes familles de Kandahar.
Oui, non, mais quelques familles d'Ouzbeks qui se sont réfugiées en Afghanistan récemment, qui a renforcé ce mouvement qui était dans le Nord. Tout à l'heure, Monsieur Maximo a dit quelque chose qui pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu plus, doit être un peu plus compliqué. Certes, les talibans ont marqué des points sur le plan militaire en Afghanistan. Il y a pas de doute, même si pendant 36 heures, ils ont occupé Kunduz, mais déjà, c'était un événement majeur. Mais en même temps, on a une image un peu fausse de la présence militaire ou de l'influence militaire des talibans en Afghanistan, pour une simple raison que nous, on a l'impression ici que les talibans, c'est un mouvement armé. Uniquement un mouvement armé, un mouvement de rébellion, un mouvement de position armée, avec des détachements, des guérillas ou de l'armée, etc. Donc, présence. Non, les talibans se sentent d'abord, évidemment, c'est un mouvement armé d'opposition, mais en même temps, c'est un mouvement très populaire. C'est un mouvement ethnique. C'est un mouvement qui est présent sur le terrain par ses relations ethniques, par son influence tribale, etc. Mariam Ouzab tout à l'heure a évoqué une toute petite pointe qui on n'a pas le temps d'évoquer, mais qui montre vraiment la complicité de la situation d'Afghanistan. Elle a dit que l'élection de Akhundzada était légitime parce qu'il appartenait aux Nourzaï. Bon, nos éditeurs ne savent pas qui sont les Nourzaï, mais en Afghanistan, tout ça a une importance énorme d'appartenir à telle ou à telle tribu, etc. C'est la raison pour laquelle une énorme partie du pays, notamment dans le sud, dans l'est, à Badris, etc., ils sont sous l'administration du Taliban, sans lutte armée, sans qu'il y ait eu la guerre.
Vous allez dans mon sens, Karim Pakzad. La nomination d'Akhundzada met en avant justement l'importance de ce caractère ethnique.
Oui, absolument. Maintenant, on revient sur Akhundzada. Moi, je pense que les Taliban, quand même, ont montré avec cette élection une certaine maturité. Maturité politique qui leur a fait défaut pendant l'élection de Mollah Mansour. On ne revient pas sur les conditions de choix de Mollah Mansour, qui s'est accompagné par des divisions, même par des meurtres entre eux, etc. Et que sur le terrain, même si Mollah Mansour, qui voulait affirmer son autorité sur le terrain, a poussé à des attentats suicides, à la prise de Kunduz, etc., a affaibli politiquement les talibans. Or, l'affaiblissement des talibans sur le plan politique ne sert pas les négociations de paix. Autant les talibans sont unis, autant quelqu'un qui peut parler au nom de l'ensemble des talibans, autant les négociations de paix pour avancer. Or, Akhundzada a été élu dans des conditions où il y a eu plusieurs choses ont été respectées. D'abord, institutionnellement, Akhundzada, c'était le premier adjoint de Mollah Mansour. Donc, logique, c'est logique, c'est même juridiquement, c'est plus apte à succéder à son chef. Deuxièmement, élément que tout à l'heure on a sidiné, il appartient au sein du Taliban, c'est un mouvement pachtoun essentiellement, mais au sein de cette ethnie, il y a des rivalités, il y a des courants. Donc il appartenait aux tribus de Kandahari. Pour que les gens comprennent, de Kandahar, grosso modo. Ça lui donnait une certaine légitimité. Comme Mollah Mansour, comme Mollah Omar, tous étaient dans cette région-là. Alors, si jamais le deuxième adjoint de Salahuddin Haqqani qui aurait été élu.
Qui est le chef du réseau Akani.
À ce moment-là, oui, à ce moment-là.
Qui était l'un des prétendants d'ailleurs à la succession.
Oui, absolument. Et tout le monde craignait vraiment son élection parce que c'est le plus radical. C'est aujourd'hui en conflit avec le Pakistan, alors qu'il était pendant longtemps soutenu par le Pakistan. Et puis finalement, je termine seulement pour dire que moi, je pense que l'élection de Akhundzada, qui n'est pas un homme politique, qui n'est pas un chef militaire, qui est un homme consensuel, pour servir les négociations de paix.
Ah, donc vous n'avez pas le même avis. Marc Sémo, on va y revenir. Marc Sémo.
Ces négociations de paix, elles ont une logique, puisque sur le terrain, personne ne peut imaginer que le pouvoir afghan rétablisse la situation. On n'en a pas les forces, même avec les quelques milliers de soldats américains qui vont rester. D'un autre côté, les talibans, jusqu'ici, vous l'avez souligné, à part la prise par surprise de Kunduz, contrôlent un tiers du territoire, mais n'ont jamais réussi à avoir véritablement sur le terrain des avancées décisives. Donc la seule solution, c'est la paix. Et en même temps, ces négociations, depuis le début, elles ne décollent pas. Est-ce que c'est uniquement à cause des Pakistanais qui jouent un double jeu ?
Non.
Qu'est-ce qui fait que, finalement, ce processus
non, je ne pense
bloqué.
Pas, Maxime, je ne pense Karim pas que Bagdad. Le Pakistan... Oui, je ne pense pas, aujourd'hui, je crois que depuis un an et demi, deux ans, hein, depuis que le Pakistan a lancé sa grande offensive contre les talibans pakistanais, qui a marqué des points, au point où, aujourd'hui, même, ils ont libéré la totalité de Waziristan du Nord. Depuis cette date-là, le Pakistan a eu des assurances, aussi bien de la part des États-Unis que de la part de la Chine, que leur influence en Afghanistan sera reconnue et que l'aide, non seulement l'économie financière des États-Unis, mais même la livraison des F-16 est envisagée si le Pakistan vraiment fasse la pression sur les talibans pour revenir à la table de négociation.
Il l'a fait ou il ne l'a fait pas ?
Non, il le fait. Il le fait, mais le problème est qu'on a en France l'idée que le Pakistan contrôle tout. Ah ben non, c'est pas vrai. Les talibans, c'est vrai. Les talibans, c'est un mouvement qui est créé par le Pakistan en 94. Je sais exactement comment ça s'est passé. Hein, comment ça s'est passé parce que le premier ministre de l'époque m'a raconté
On a aussi le sentiment, Karim Pakzad, qu'il y a une politique répressive sélective de la part du Pakistan.
Oui, non, mais parce qu'on pense que le Pakistan contrôle tout. Mais non, le Pakistan a une énorme influence sur le taliban. Ça, je le reconnais. Mais en même temps, c'est l'histoire de l'Afghanistan, c'est la particularité de ce pays. Personne, aucune puissance n'a jamais contrôlé durablement à mouvement une personnalité, un roi, un prince, un président qu'il a mis en place. Ça, c'est l'histoire, toute l'histoire de l'Afghanistan. C'est la raison pour laquelle, tout en étant dépendant de Pakistan, les talibans ont leur propre projet et ont leur propre programme. C'est la raison pour laquelle on soupçonne aujourd'hui le Pakistan de jouer le même jeu qu'auparavant. Mais non, aujourd'hui, le Pakistan a accepté l'idée de contribuer au processus de paix parce qu'il a, c'est son intérêt, tout simplement. C'est son intérêt. La présence des talibans au sein du gouvernement afghan assurerait l'influence du Pakistan en Afghanistan. Et puis l'aide promise par la Chine, 40 milliards de dollars d'investissement, et puis l'aide américaine et livraison de F-16 qui rétablirait un petit peu quand même l'équilibre de force entre l'Inde et le Pakistan.
En tout cas, je ne sais pas si le Pakistan a vraiment le désir d'aller au bout et d'aller jusqu'à la paix, mais il a visiblement le désir, en tout cas il est prêt à organiser des négociations, parce qu'il y avait eu évidemment, on s'en souvient, celle de juillet 2015, qui avait abouti à rien du tout, sauf qu'il y a une dizaine de jours, Islamabad a annoncé, via le compte Twitter d'ailleurs du ministre pakistanais des Affaires étrangères, une nouvelle série de discussions, donc avec les acteurs que vous mentionniez tout à l'heure, Marc Sémo, c'est-à-dire l'Afghanistan, le Pakistan, les États-Unis et la Chine. Ça devait se tenir là au Pakistan, là on se demande du coup si ça va pouvoir encore avoir lieu. Mariam Abouzaab.
C'était très surréaliste de prévoir ces négociations aussi rapidement, de toute façon, même si Mollah Mansour n'avait pas été assassiné, c'était trop rapide. Donc il faut attendre maintenant. Et maintenant, on n'est pas du tout, les talibans n'ont aucun intérêt maintenant à négocier, comme j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure, et aussi parce qu'ils sont quand même militairement très forts sur le terrain. On est dans une impasse totale du point de vue militaire, et il ne faut pas oublier que Mollah Mansour...
Ils sont très divisés aussi.
Ils ne sont pas aussi divisés qu'on le croit. Ça, c'est les Occidentaux qui veulent croire à la fragmentation des talibans. Ce n'est pas vrai. Ils sont beaucoup moins divisés qu'on le croit. Alors, à moins que vous ne considériez que le réseau Haqqani, ce sont des talibans. Non, c'est quelque chose de différent.
Il y a Mollah Rassoul,
quelque chose de différent.
Alors, comment vous expliquez que le chef du réseau Haqqani était l'un des successeurs potentiels?
Non, c'est impossible. Jamais les Kandahari n'auraient accepté Siraj Haqqani comme chef. C'est même pas pensable, ça. Bon, et il était très lié au Pakistan. Il mène des opérations dans Kaboul, ce que les talibans Kandahari ne peuvent pas faire, même s'ils revendiquent. C'est quelque chose de complètement différent.
D'accord.
Et le Pakistan ne peut pas se retourner contre le groupe Haqqani parce que les conséquences à l'intérieur du Pakistan seraient beaucoup trop graves. Ils ne peuvent absolument pas se permettre cela. Ils savent très bien ce que ça impliquerait. On a déjà vu ce qu'impliquait l'opération au nord Waziristan. Donc tous ces gens qui étaient là au nord du Waziristan, tous ces étrangers qui sont passés en Afghanistan, un certain nombre ont fait allégeance à un autre acteur qui est là maintenant, qui est l'État islamique. Alors l'État islamique ne s'intéresse pas beaucoup à eux, et les talibans combattent l'État islamique, puisque les talibans se voient quand même comme la seule opposition qui soit légitime religieusement en Afghanistan. Donc ils combattent aussi l'État islamique, et ils combattent tous leurs dissidents qui avaient été tentés de faire allégeance à l'État islamique. Donc là, on se trouve dans une situation paradoxale où le gouvernement afghan, les États-Unis et les talibans ont le même ennemi. Bon, et il faut faire attention aussi de voir que Kunduz était extrêmement important d'un point de vue symbolique, parce que c'est le nord. Bon, Kunduz, c'est la ville dans le nord où il y a le plus de Pashtuns, mais c'est quand même important. Ça veut dire que les talibans sont maintenant un mouvement national et pas seulement un mouvement Kandahari, qui sont présents partout. Que 1/5 de l'establishment taliban est composé maintenant de non-Pashtuns. Et que dans le nord, on voit par exemple au Badakhshan, il n'y a pas de Pashtun, il n'y a pas. Et là, on voit des combats importants. Et donc, ils sont maintenant partout. Il faut l'accepter. C'est un mouvement national. Et c'est vrai que pour beaucoup d'Afghans ruraux, les talibans, ils n'ont pas besoin de faire pression sur eux pour les recruter. Il y a suffisamment de jeunes gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de perspective d'avenir et qui vont entrer, quelquefois au hasard, ça dépend de l'offre, ou chez les talibans ou dans l'armée afghane. C'est pareil, ils font pas de différence. Ce qui les intéresse, c'est le salaire, hein, c'est tout. Et les talibans ont des valeurs qui sont en phase avec les valeurs d'une grande partie de la société rurale afghane, que ça plaise aux Occidentaux ou non. C'est comme ça, c'est un fait. Et il y a quand même des régions où on a une certaine sécurité. Alors bien sûr, il y a beaucoup de civils qui sont tués, mais c'est la guerre. Dans les années 80 aussi, il y a beaucoup de civils qui étaient tués par toutes les opérations menées contre les soviétiques et contre le gouvernement de Kaboul. Personne ici en Europe ne traitait les moudjahidines de terroristes. Alors il faut quand même aussi être un peu cohérent.
Alors, on entend, Karim Paksa, je vous laisse tout de suite intervenir. Juste, je recadre un tout petit peu les choses parce que effectivement, Mariam Abouzaab a l'air de nous présenter la chose. Voilà, un mouvement national, dit-elle, avec une certaine cohérence, etc. Certains talibans, et vous parliez de Daesh, effectivement, ont fait allégeance à l'État islamique, principalement, visiblement, dans l'est du pays, dans la province notamment de Nangarhar, donc avec à la frontière avec le Pakistan. Est-ce que d'abord, on a une idée de l'implantation, justement, de Daesh dans cette région-là? Et dans quelle mesure c'est un facteur de fragilisation pour le mouvement taliban?
D'accord. Oui, il y a deux questions. D'abord, je reviens sur.
Je vous en prie.
Sur ce qu'a dit Mariam Abouzaab. Il faut faire vraiment attention au vocabulaire qu'on utilise. Les talibans ne sont pas un mouvement national dans le sens où représentent l'ensemble de la société afghane, c'est-à-dire one mouvement. Non, pas du tout. Le taliban reste essentiellement un mouvement pashtun. Il y a des poches importantes des pashtuns dans le nord de l'Afghanistan. Pourquoi la ville de Kunduz a tombé si facilement? La ville de Kunduz, c'est presque à 60% habitée par les pashtuns. On ne sait pas peut-être ici, mais pourquoi dans d'autres régions comme Faryab, etc., les talibans sont devenus maintenant puissants? Parce qu'il y a des poches des Pashtuns. Oui, il y a des. On a cité l'exemple de Badakhshan, mais évidemment Badakhshan a une situation géopolitique, géostratégique importante, un lieu de passage entre les talibans et ses alliés tajiks. Et Ouzbek, de l'autre côté, c'est la raison pour laquelle il y a des talibans qui sont présents dans cette région-là. Mais les talibans, si on veut dire qu'ils sont présents partout, oui, je peux l'accepter. Mais si on peut dire que c'est un mouvement national, c'est-à-dire qu'il représente l'ensemble des ethnies et des...
Les auditeurs n'ont pas l'image, mais Mariam Abouzaab a l'air d'abonder dans votre sens et d'accepter la nuance.
Hein, oui, non, ce que je voulais dire, je me suis mal exprimé, ce que je voulais dire en disant mouvement national, je voulais dire qu'ils sont présents partout.
Voilà.
dans le pays. Voilà, je pense qu'on a... Qui sont allés au-delà de Kandahar et de ce qu'était la normalement l'espace.
On est d'accord.
Voilà.
Ouais,
c'est ça que je veux dire.
Daesh, Daesh, il est apparu juste après les grandes offensives, on l'appelle les Pakistanais. Lorsque le Pakistan, l'armée pakistanaise a marqué des points importants, hein, que le mouvement de Tahrik et Taliban et pakistanais a été défait. Hein, aujourd'hui, ils sont entrés au Pakistan dans la clandestinité, qui mènent des opérations de suicide, sanglants par-ci.
Vous parlez du TTP, là. Vous parlez du TTP. C'est donc la mouvance des talibans pakistanais, le principal qui a été déconstitué en 2007.
Beaucoup d'entre eux ont été tués. Une partie se sont réfugiés en Afghanistan. Et en Afghanistan, évidemment, la situation même, cette défaite même, les ont poussés vers Daesh, vers l'État islamique. C'est la raison pour laquelle l'État islamique ou Daesh en Afghanistan est essentiellement composé des Pashtuns ou des mouvements des talibans pakistanais, pas des Afghans. Par la suite, également, la division à l'intérieur des talibans qui est réelle, qui est aujourd'hui même réelle. Les Afghans, ceux qui sont pour la paix, ont regretté comme Mollah Rasoul, la dissidence au sein même des talibans n'était pas présente au sein de Shura de Quetta pour l'élection de Akhundzada. Les divisions des talibans sont réelles. Bon, une toute partie des talibans afghans sont rejoints de Daesh, mais Daesh est cantonné dans la province de Nangarhar, à l'est de l'Afghanistan. Il n'a pas une audience ailleurs que ça. Et non seulement les talibans, parce qu'ils ne supportent pas des ribots, seulement religieux, mais politique, hein, qui mettent en cause leur autorité politique, mais non seulement les talibans, mais Pakistan. Le Pakistan, et sans parler de l'armée afghane, ne supporte pas leur présence. C'est la raison pour laquelle ils sont, à mon avis, ils vont pas durer trop longtemps. Leurs bases sont bombardées sans arrêt, hein, aussi bien par la version afghane, américaine ou pakistanaise, etc. C'est un mouvement qui n'a pas d'avenir en Afghanistan.
Juste une question extrêmement simple. Est-ce que Akhundzada a la légitimité, le charisme, l'aura suffisant pour garantir l'unité des talibans?
Il y a plusieurs ces qualificatifs que vous utilisez sont extrêmement difficiles à se faire réunir en une seule personne. Légitimité, oui. Tout à l'heure, j'ai bien dit qu'il était le plus légitime institutionnellement et historiquement. C'était légitime, le premier adjoint de Mollah Mansour se succède à Mollah Mansour. Et surtout, avec l'unanimité de Shura de Quetta. Historiquement, il était légitime. Il était l'un des fondateurs du mouvement des talibans avec Mullah Omar. Et il était légitime parce qu'il représente la majorité des talibans.
D'accord. Est-ce que son projet politique est de nature à garantir l'unité du mouvement?
Oui. Là-dessous, il y a vraiment de difficultés à prédire. Parce que ce n'est pas une politique. Ce n'est pas quelqu'un qui a une expérience politique. Tout ce qu'il a fait dans le passé, il était une sorte de secrétaire d'État à la justice des talibans. Ensuite, il dirigeait un madrasa, une sorte de mosquée madrasa à Quetta, au Pakistan. Donc, il n'a jamais joué un rôle politique, seulement était là pour justifier sur le plan religieux les attentats, les attaques des talibans, etc. Donc, sur ce plan-là, il y a un doute. D'accord. Il y a un doute sur sa capacité à... Mais moi, je pense qu'il a été élu également pour ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne menace l'autorité d'aucun autre clan ou de son rival. Et qu'à mon avis, il représente une sorte de transition.
D'accord.
Il est là pendant un moment. S'il sert vraiment les négociations de paix, à ce moment-là, on pourra dire qu'il aura gagné le pari. Sinon, il y aura d'autres assassinats, d'autres divisions. Vous savez, tout à l'heure, Monsieur Simon a dit une menace, message envoyé par Barack Obama au Pakistan. Le message a été envoyé également aux talibans.
Absolument.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les talibans savent. Et savent que la décision des négociations est prise. Aussi bien par le Pakistan que par l'Afghanistan, que par les États-Unis, que par la Chine. Et celui qui se mettra au travers de ces négociations, il sera éliminé. Et vous avez bien fait de souligner que pour la première fois qu'un chef des talibans est éliminé, en fait, Barack Obama, il y a quelques mois, a annoncé que les talibans ne sont plus un mouvement terroriste pour les États-Unis. Et comment justifier maintenant de tuer le chef d'un mouvement qui n'est pas terroriste?
Parce qu'il s'oppose au processus
de paix. Exactement. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il y a une vraie chance aujourd'hui, pour toutes ces raisons, que si on le met bout à bout, pour les négociations de paix.
Mais par exemple, ça dépend aussi par exemple, des autorités afghanes. Alors notamment, parce qu'une des exigences aussi que posent sans arrêt les Pakistanais, c'est que l'Afghanistan reconnaisse la ligne Durand, qui était la ligne qui marquait la frontière entre les deux.
Vous savez, messieurs, jamais Pakistan n'a posé ça ouvertement. Jamais.
Oui, mais implicitement, oui.
Jamais. Donc, c'est pas une condition sur la table.
Non, c'est totalement impossible. La ligne Durand, n'en parlons même pas. Aucun gouvernement afghan, quel qu'il soit, ne reconnaîtra jamais la ligne Durand. Donc ça n'entre pas en ligne de compte. Le problème, c'est la méfiance très grande entre les deux pays, entre le Pakistan et l'Afghanistan. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Parce que, bien sûr, les Afghans accusent toujours le Pakistan de tout ce qui va mal chez eux, etc. Bon, on avait senti au début...
Ils accusent surtout de soutenir les talibans, ce qu'ils font très clairement. Oui, mais Mansour, quand même, pardon, moi, il y a une information, et je vous laisse tout de suite poursuivre, mais une information qui m'a quand même un tout petit peu étonné, parce qu'on sait bien sûr que les Pakistanais soutiennent les talibans, mais on a quand même trouvé sur Mansour, quand il est mort, des documents d'identité qui montrent que, visiblement, il aurait effectué quasiment une quarantaine de voyages sur une dizaine d'années. C'est-à-dire, en gros, ils font absolument ce qu'ils veulent. Dubaï, Karachi, Karachi-Dubaï...
D'accord.
On fait ce qu'on veut.
On a dit...
Téhéran, a-t-on dit ?
Oui, Téhéran, éventuellement, pour des raisons...
Voilà, parenthèse fermée, je vous laisse poursuivre.
Le problème, c'est pas là. On est bien d'accord que les talibans afghans avaient au Baloutchistan, à Quetta, un sanctuaire, et qu'à partir de là, ils mènent des opérations en Afghanistan, et que dans le nord du Waziristan, le réseau Akrani était très bien implanté, mais des opérations à Kaboul. On est d'accord là-dessus, personne ne le conteste. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, parce qu'on sait très bien qu'il y a des spoilers dans le processus de paix. Les services de renseignement afghans, d'une part, et l'opposition afghane, qui soutient en Afghanistan des groupes pakistanais qui ont trouvé refuge, que ce soit dans la province de la Kunar ou dans d'autres régions en Afghanistan, et qui, à partir de là, viennent mener des opérations contre l'armée pakistanaise au Pakistan et qui retournent dans leur sanctuaire. Ça marche dans les deux sens. Et ça, les Afghans l'ont toujours reconnu que ça existait. Alors, il faudrait peut-être arrêter là aussi, parce que sinon, c'est un jeu sans fin. Donc, on comprend qu'il y a une très grande méfiance entre les deux pays. Après l'accession au pouvoir d'Ashraf Ghani, on avait pensé que les choses allaient se calmer un peu, parce qu'il était mieux disposé envers le Pakistan que ne l'était Hamid Karzai, les relations étaient meilleures, et puis tout d'un coup, avec cette annonce de la mort de Mollah Omar, en plein pendant les pourparlers, où chaque pays a accusé l'autre d'être celui qui avait laissé filtrer la nouvelle. Donc ça y est, tout s'est arrêté, tout a été bloqué, et on est à nouveau dans une situation de très grande méfiance. Alors il faudrait d'abord travailler là-dessus, sinon on n'arrivera jamais à rien.
Karim Pakzad.
Oui, moi je crois que...
On arrive presque au terme de l'émission, mais allez-y.
Mais, désolé de répéter, et pour dire que... La situation a changé en Afghanistan. On n'est plus dans la même analyse qu'il y a un an et demi ou deux ans. L'arrivée au pouvoir d'Ashraf Ghani en Afghanistan a favorisé vraiment le retour de confiance entre le Pakistan et l'Afghanistan. Si Ashraf Ghani, au cours de l'année 2016, a pris quelques distances et a fait des déclarations anti-pakistanaises, c'est parce que Mollah Mansour a voulu renforcer son pouvoir sur le terrain et s'est lancé dans des attentats suicides incroyables avec des morts énormes. Vous avez plus de 7000 morts civiles depuis le début de l'année en Afghanistan, d'après l'ONU. Or, tout ça a poussé et l'opinion publique afghane à ce que Ashraf Ghani fasse ses déclarations. Mais ces déclarations, ce sont de pure forme. Tout ce que Ashraf Ghani a concédé au Pakistan, il reste sur la table. Par exemple, dès son arrivée au pouvoir, Ashraf Ghani a suspendu un accord militaire entre l'Afghanistan et New Delhi, signé par son prédécesseur Hamid Karzai. Pourquoi ? Pour donner des garanties au Pakistan. Il est allé aussi loin que possible, à savoir une collaboration entre les services secrets des deux pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, l'entourage d'Ashraf Ghani est soupçonné par les autres Afghans, par la société civile afghane, comme un entourage pakistanais. À ce point-là, la méfiance vis-à-vis du pouvoir de Ashraf Ghani est grande. Et à ce point-là, ça montre qu'il y a une possibilité de travailler ensemble entre Ashraf Ghani et le Pakistan. Moi, je trouve que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui. Et encore, je répète, surtout cette fois-ci, l'engagement de la Chine. Et puis une décision assez ferme des États-Unis de mener à bien, parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'un Pakistan stable, d'un Afghanistan en paix, pour se rivaliser entre eux, ces deux puissances en Asie de l'Est et dans la mer de Chine.
Bon, en tout cas, un message d'espoir pour la paix.
Absolument. Voilà.
Merci beaucoup à tous d'avoir été nos invités ce matin. Karim Pakzad, Mariam Abouzahab et Marc Semo, notre partenaire du Monde chaque vendredi.